Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Dans la précédente émission, nous avions commencé un parcours narratif dans l'évangile de Jean autour de la question de la royauté de Jésus. Nous reprenons notre lecture. Au chapitre 12, versets 13 à 19. C'est un épisode bien connu, celui de l'accueil triomphal de Jésus à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël !» Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment. Mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui. C'était bien ce qu'on lui avait fait. La foule rendait témoignage, elle qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait réveillé d'entre les morts. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre. Elle avait entendu dire qu'il avait accompli ce signe. Les pharisiens se dirent alors entre eux, « Vous voyez bien que vous n'arrivez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière lui. » La foule acclame Jésus comme le roi d'Israël. Jean fait le lien avec une prophétie de Zacharie. « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Qu'est-ce qui a changé, père Alain, depuis l'épisode précédent où Jésus s'est retiré dans la montagne? Comment décrypter ce passage?
Alors, c'est vrai que on découvre que dans l'évangile, chacun des évangiles d'ailleurs à sa façon, il y a une dynamique narrative, il y a des éléments qui se déploient, qui s'éclairent, parfois qui s'obscurcissent aussi. Et là, nous sommes à un moment assez particulier où nous retrouvons cette royauté qui est proclamée par les foules. Alors on sait que les foules n'ont pas bonne réputation. On dit le peuple, il a une conscience, mais la foule, elle est souvent portée là où il se passe quelque chose. Or, on peut se demander, sur cette belle séquence que vous avez lue, finalement, pourquoi Jésus a-t-il accepté la royauté confessée par Nathanaël? Pourquoi a-t-il eu un malentendu quand il a rencontré Nicodème? Pourquoi, avec la multiplication des pains, là où ça aurait pu réussir, ça a échoué? Et cette gloire de Jésus, cette seigneurie de Jésus, elle n'est portée à la fin que par les quelques-uns. Vous vous en souvenez qu'à la fin de la multiplication des pains, lorsque tout le monde s'en va, Jésus dit « Est-ce que vous aussi, vous allez partir ?» Sous-entendu, les gens commencent à fuir, c'est-à-dire cette royauté inquiète parce que ce n'est pas la royauté qu'ils attendent. Et Pierre dit, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc ça veut dire qu'il reste encore une espérance de vraiment reconnaître la vraie royauté. Et ici, dans ce chapitre d'introduction qui est grandiose, Jésus est acclamé comme roi par la foule et il ne rejette pas cette acclamation. C'est-à-dire, il l'accepte. Il est roi, bien sûr roi d'une façon paradoxal. Il n'est pas roi à la manière des rois de la terre, mais il est roi dans la lignée des grands rois de l'histoire d'Israël, quand Dieu a donné un roi, chacun étant souvent des hommes qui n'étaient pas à la hauteur. Vous vous souvenez certainement que dans la liste des rois de l'Ancien Testament, quand on fait la vie de chacun des rois, sauf pour deux ou trois, on finit toujours à la fin en disant « et il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé ». C'est-à-dire déception de Dieu. Et ici, dans cette entrée de Jésus à Jérusalem, Jésus n'est pas au bout de son parcours, mais il sait que cette entrée royale que les rois d'Israël faisaient régulièrement pour entrer dans leur pouvoir de royauté, il le fait lui aussi. Parce qu'il est roi, il est vraiment roi, restera bien sûr à identifier quel type de royauté il veut représenter. Et c'est là sans doute que nous aurons à nous expliquer sur ce qu'on peut appeler les métaphores. Enfin, qu'est-ce que c'est être roi ? Est-ce que c'est la même chose être roi sur la croix comme Jésus, roi comme un roi puissant ? On voit bien qu'il y a un malentendu dans l'appellation. Il y a une sorte de vague ou de vide. C'est disponible au fond, selon la capacité de chacun de reconnaître la royauté. Et tout l'évangile au fond, et c'est pour ça que l'évangile s'adresse à nous, c'est-à-dire nous, peut-être qu'on n'est pas familier du titre de royauté, mais on comprend ce que ça veut dire. Nous, on est appelés à rentrer dans ce mystère, comme l'a fait Nathanaël, comme la foule le fait ici, peut-être avec une plus grande fidélité. Mais vous voyez, c'est une séquence importante, et Jésus et les foules invoquent les paroles des prophètes, parce que les prophètes ont annoncé un roi. Ici, un roi petit qui est sur un âne, c'est un peu paradoxal, c'est pas un roi puissant. À l'époque de Jésus, on montait sur un cheval, pas sur un âne. Cet âne symbolise un peu la fragilité de Jésus. C'est un signe déjà qui parle.
Mais qui a choisi finalement cette citation de Zacharie ? C'est Jean ? C'est quelque chose qui se disait dans la foule ? D'où vient cette citation particulière avec cette référence à l'âne ?
Ah ben elle vient, il faut toujours s'en souvenir, nous n'avons pas les moyens de tout expliquer, elle vient de l'auteur. L'auteur, c'est toute une inscription de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire est complexe, et cette parabole, elle a dû sortir de la bouche des gens, c'est-à-dire, vous savez, ils avaient la familiarité, peut-être que nous n'avons plus, nous, avec les prophètes, et donc, en voyant Jésus rentrer dans Jérusalem, ils se souviennent de cette phrase de Zacharie qui annonce que Jésus va, un roi va rentrer, donc c'est tout à fait logique, mais le malentendu persiste, parce que pour la foule, vous le savez aussi bien que moi, la même foule qui acclame Jésus comme roi, quelques jours après, va annoncer, va appeler sa mort. Donc, vous voyez, on n'est pas dans l'affirmation pleine, totale de la royauté telle que, comme croyants, nous devons la porter, mais c'est un cheminement qui va vers le sommet. Alors, le texte que nous allons regarder après, c'est le grand texte de la confession royale de Jésus.
Et alors, avant cela, nous allons évoquer un épisode important qui est celui du lavement des pieds. Alors, nous n'allons pas le relire parce qu'il a fait l'objet d'une émission récemment à laquelle je renvoie nos auditeurs. Ils peuvent la réécouter sur notre site en podcast. On rappelle simplement qu'il s'agit du lavement des pieds au cours du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et donc, par ce geste surprenant du lavement des pieds, Jésus révèle que sa royauté est une royauté de serviteur. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Mais on se souvient que Pierre a eu beaucoup de mal à comprendre, sans parler de Judas. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cet épisode ?
Oui, je crois qu'on peut lui trouver un sens plus fort en le reliant à ce qui précède. C'est-à-dire, nous sommes pratiquement au lendemain de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous sommes dans la même semaine. Donc, comment expliquer pour Pierre et les apôtres que celui qui est acclamé comme roi, entrant dans la ville de Jérusalem avec cette royauté que ses prédécesseurs rois ont vécu, comment peut-il se comporter d'une manière aussi servile, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un roi qui se fait serviteur ? Ça n'existe pas. Et donc, Vous voyez, là, on aborde déjà un problème qui est complexe, même au niveau du langage. On y reviendra de manière plus dense après, mais moi, je voudrais vous donner un exemple de ce que j'ai vécu un jour. Lorsque j'étais jeune étudiant à Rome, avec trois ou quatre collègues prêtres, nous sommes partis en bateau. Nous avions pris un bateau à Naples, et nous avons pris un bateau pour aller à Athènes, et puis au Pirée d'abord, puis ensuite en Égypte, puis ensuite jusqu'à Jérusalem. Et quand nous étions en Grèce, un jour nous avons vu passer sous nos yeux un camion sur lequel était écrit le mot « métaphoros ». Et alors évidemment, comme on était des intellectuels qui sortions de l'Institut biblique de Rome, on s'est mis à débattre entre nous, qu'est-ce que ça veut dire « métaphoros » et qu'est-ce qu'on a vu ? C'était un camion qui était rempli de choux. Et alors, tout à coup, entre nous, en discutant sur la métaphore, parce que « métaphoro », si vous traduisez dans notre langue, ça veut dire « transfert ». Une métaphore, c'est un transfert. Alors, on s'est dit, mais ça y est, on a tout compris. Vous avez peut-être trouvé qu'on est un peu audacieux. C'est un commerçant qui n'avait plus de choux. Donc, il n'avait pas de choux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris son camion, il est allé dans les champs et il a transféré les choux dans son camion pour les mettre dans son magasin. Transférer, métaphore, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous allez faire quand vous voulez dire quelque chose pour lequel vous n'avez pas de mots ? Ben vous allez chercher dans le langage, vous allez prendre votre camion linguistique, vous allez aller avec ce camion prendre des mots qui vont vous aider, que vous allez transférer dans votre langage, et ça va faire des métaphores. Roi, c'est une métaphore. C'est-à-dire, c'est pas le réel, c'est une image, c'est parce qu'on n'a pas d'autre image, ou alors il faut se taire. On le sait qu'une des autres façons de dire Dieu, c'est de se taire. On ne dit rien. C'est le langage particulier que vous connaissez, le silence.
Et la théologie apophatique.
Apophatique. Mais elle est bonne. Mais là, si on veut aller plus loin, nous avons la métaphore. On en reparlera sans doute un peu plus loin. Mais vous voyez, c'est pour dire quelque chose là se dit dans ce geste de Pierre qui ne veut pas. Quand même. C'est humiliant pour un serviteur de laver les pieds de son maître. C'est quelque chose qui... Or, Jésus, c'est le maître, mais le serviteur, comme vous l'avez dit.
Alors maintenant, nous allons faire silence pour entrer au cœur de l'évangile de Jean. Nous arrivons à ce fameux épisode qui occupe vraiment une place centrale, celui de la confrontation décisive de Jésus avec Pilate au prétoire. Mais avant de rentrer dans le texte, pourriez-vous, Père Alain, nous situer cette longue scène dans le travail narratif et interprétatif de Jean ?
Voilà, oui, alors je crois qu'on peut la situer d'autant plus facilement que Jean est le seul qui a donné une grande ampleur à cette séquence. Les autres l'évoquent, hein, mais très brièvement. Jean l'a construite à travers sept scènes successives qui sont très belles, qui avancent, qui grandissent, vraiment magnifiques. Et il a un peu négligé la présentation devant Caïphe. Il n'y a pas grand-chose dans Jean. C'est la scène centrale. Un de mes collègues, quand j'étais professeur à Toulouse, que vous connaissez peut-être, qui était un grand spécialiste de Jean, qui s'appelait le père Légas, vous avez entendu parler de lui, était aussi un musicien. Et il disait, dans son commentaire de ce passage, il disait « ça me fait penser à un musicien, quand il compose une pièce, il va privilégier une pièce particulière dans laquelle il va s'investir beaucoup plus que dans le reste. Ça sera son morceau choisi, si vous voulez. Eh bien, on pourrait dire que ce morceau que nous avons là, que nous allons commenter ensemble, c'est sans doute la pièce fondamentale, première pièce de l'évangile de Jean. C'est là que éclate enfin de manière claire et définitive ce que c'est que la royauté de Jésus à travers, au fond, ces sept séquences qui se développent les unes après les autres dans le dialogue avec la foule qui est dehors et avec Pilate qui est à l'intérieur.
Alors, entrons maintenant donc dans ce récit au chapitre 18, verset 28. Jésus vient d'être arrêté par une cohorte en armes guidée par Judas. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Pilate, qui n'a pas encore rencontré Jésus, se pose donc des questions à son sujet. Pouvez-vous nous rappeler, Père Alain, quelles étaient ses fonctions administratives et judiciaires? Comment se situait-il par rapport aux autorités juives qui voulaient juger Jésus? Et quels étaient les enjeux politiques pour lui?
Vous savez qu'à l'époque de Jésus, les Juifs n'avaient aucun pouvoir pour des procès. Comme il pouvait se faire auparavant, non ? C'est Pilate, le procurateur, qui pouvait, lui seul, pouvait faire des condamnations à mort. Alors, ici, nous voyons bien qu'il y a quelque chose d'un peu curieux, parce qu'en fait, Pilate, qui se présente ici un peu comme un homme assez juste, peut-être l'est-il moins que le texte le présente, historiquement, mais Pilate voudrait savoir, au fond, quelle est l'accusation qui est portée contre lui. Et vous avez remarqué, finalement, il n'y a pas grand-chose qui est dit. S'il n'avait pas fait le mal, nous ne te l'aurions pas livré. Il n'y a rien, il n'y a pas un contenu particulier qui soit exposé. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on reste un peu dans le vague. Et en même temps, je fais une autre remarque, peut-être d'un autre genre, qui nous éclaire beaucoup. Je vous disais, c'est la pièce maîtresse, sans doute, de l'évangile de Jean. C'est là celle qu'il a le plus travaillé, d'une certaine façon. Si vous regardez bien, on nous dit, il ne voulait pas rentrer pour éviter de se souiller et pouvoir manger la Pâque. Et là, nous avons une révélation intéressante au plan historique, c'est-à-dire que Jean nous laisse entendre que Jésus a été mis à mort avant la Pâque. Et donc, à la différence des synoptiques qui font mourir Jésus le jour même de Pâques, qui est tout à fait invraisemblable, c'est Jean qui a raison dans sa façon de présenter la chronologie de la fête de Pâques. Donc là, on touche du doigt, d'ailleurs, confirmé, comme vous pouvez vous-même le noter, par les différentes venues de Jésus à Jérusalem. Jésus passe beaucoup de temps à Jérusalem, presque, on dirait, au moins 3 ou 4 fois il vient, alors que dans les synoptiques, Jésus monte à Jérusalem une fois pour toutes et c'est terminé. Donc vous voyez, là on est dans le commencement d'une séquence, Jésus, ainsi s'accomplit la parole de quelle mort il allait mourir, c'est-à-dire la mort d'un condamné en croix, comme un roi dangereux, alors que lui n'a aucune dangerosité, comme il le dit lui-même, il n'a rien fait de mal. Et Pilate en est conscient et ça va faire avancer un peu le récit.
Nous sommes arrivés au terme de la deuxième émission, consacrée donc à ce thème de la royauté de Jésus dans l'évangile de Jean. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.